Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Mais oui, c'est Human, votre rendez-vous hebdomadaire. Human, cette émission écologique et humanitaire qui parle de sujets divers et variés concernant les crises de notre monde, concernant aussi les alternatives qui peuvent se présenter par rapport aux logiques dans lesquelles nous sommes actuellement. Et en termes d'alternatives, eh bien, nous avons pensé aujourd'hui avec Suzanne Lemaréchal qui coanime avec moi. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons pensé, Suzanne a pensé, qu'il serait bon de parler des monnaies alternative. Autour de cette table, pour aborder ce sujet, eh bien, tes invités, Suzanne.
Oui, très bien. Eh bien, c'est moi qui vais les présenter alors. Donc, nous avons Jonathan Alibert, qu'on peut appeler un amateur de crypto-monnaie, qui s'y connaît bien, qui est invité pour nous en parler. Comment est-ce que vous êtes intéressé à cette crypto-monnaie ?
J'ai découvert le monde de la crypto-monnaie début 2012 sur son plan, pour son plan technique uniquement. J'ai rapidement laissé tomber. Et en 2016, j'ai assisté à la naissance d'un projet que j'estime un peu plus intéressant, un peu plus complexe. Voilà.
D'accord. Et vous vous y êtes intéressé à la base parce que vous êtes informaticien, connaissez l'informatique et ça vous plaît.
Pour la partie informatique et économique.
Très bien. On en reparlera et on reviendra dans les détails un peu plus tard dans l'émission sur la crypto-monnaie. Nous avons également Francis Levasseur, qui est bénévole à la NEF. Qu'est-ce que la NEF et comment est-ce que vous êtes retrouvé bénévole dans cette banque ?
Bonjour. Une précision tout de suite. La NEF n'est pas encore une banque. Au niveau de sa définition administrative, financière, reconnue par la Banque de France, c'est un établissement de crédit spécialisé. Donc la NEF offre un certain nombre de services financiers, mais pas tous les services auxquels on est accoutumé. Donc on en reparlera si vous voulez questionner.
On reviendra dans les détails, mais pour l'idée...
Donc et comment venir à la NEF ? Donc moi je suis adhérent de ATTAC depuis longue date et une des missions d'ATTAC c'était de, par le biais de l'éducation populaire, d'expliquer les mécanismes au niveau de la finance. Bon, c'est assez ardu à comprendre là et j'ai été amené à m'intéresser au sein d'un groupe local d'adhérents d'ATTAC de se pencher sur la finance solidaire, donc qui est déjà une subdivision du grand monde de la finance. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré les quelques partenaires financiers qui opéraient dans le monde de la finance solidaire, dont la NEF. Et au moment de la retraite, comme en général, il faut trouver une autre activité, donc je me suis dit, je vais m'intéresser plus en détail à la NEF. Et la NEF a tout un réseau de bénévoles qui sont sur le terrain pour passer le message qu'est-ce que la NEF, ce que je
peux pour faire connaître cette future banque, disons.
C'est ça,
voilà la NEF, et puis donc justement c'est pour ça que vous êtes là, pour en discuter avec nous. Et pour finir, donc notre dernière invitée, Charlotte Bazire, qui est là pour parler de monnaie alternative, donc monnaie locale, notamment la gonette, qui est la monnaie de Lyon. Bonjour Charlotte.
Bonjour. Donc la gonette, en effet, elle s'inscrit dans tout un réseau de monnaies locales qui existent en France. La France est un des pays qui compte le plus de monnaies locales sur son territoire. Il y en a à peu près 80 sur le territoire. La gonette circule sur le territoire lyonnais et elle a un pied, pour faire le lien avec Francis, dans la finance solidaire, puisque les monnaies locales sont complémentaires à l'euro. 1 euro égale une unité de monnaie locale. Et chaque monnaie locale a son territoire et a pour objectif de circuler sur ce territoire pour garder la richesse sur le territoire local.
Et si on remet dans son contexte vraiment l'intérêt même de ces monnaies locales, Est-ce que ce serait possible de nous expliquer pourquoi est-ce que ça a un intérêt si fort et si grand d'avoir une monnaie locale différente de l'euro, finalement? Si ça a la même valeur, quel est son intérêt?
Il y a plusieurs intérêts. Donc, l'un des intérêts, c'est de remettre la question de la monnaie dans le débat public pour interroger les gens sur la question de la monnaie, de la création monétaire. Par qui est créée la monnaie? En fait, c'est une question qu'on se pose rarement. Donc, les monnaies locales ont cet objectif d'éducation populaire. Puisque quand on voit quelqu'un payer en monnaie locale devant nous à un comptoir de magasin, on se pose un peu des questions, mais qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Et puis l'autre intérêt, c'est de mettre justement des euros au service d'une finance solidaire, d'où cette complémentarité avec l'euro. Et donc les euros servent à financer des projets solidaires, et en attendant, les monnaies locales circulent sur des territoires locaux.
Est-ce que vous nous avez amené, Charlotte Bazire, quelques gonnettes?
Oui.
On pourrait les voir.
On peut les voir.
Et on va les décrire à nos auditeurs. Donc il s'agit de billets qui ressemblent tout à fait à des billets de banque. Voilà, 10 gonnettes, 1 gonnette, 5 gonnettes, 20 gonnettes. Donc là, voilà.
Deux gonnettes qui viennent de tomber par terre.
Il y a deux gonnettes qui viennent de tomber par terre. On va les laisser par terre. Je vais essayer de lui piquer deux gonnettes si j'y arrive. Et donc, chaque gonnette vaut un euro. Alors, comment je fais, moi, habitant de Lyon, puisque la gonnette fait référence aux gones. Les gones, c'est un peu comme les titis parisiens. C'est les enfants des pentes de la Croix-Rousse. Voilà. Donc, comment je fais si je veux aller chez un commerçant agréé, je suppose, et que je veux payer en gonnettes? J'en ai pas des gonnettes, sauf les deux gonnettes que vous allez vous piquer, mais bon, je ne vais pas aller loin avec ça.
Non.
Alors comment je fais pour avoir des gonnettes?
Donc comme toutes les monnaies locales en France, il suffit d'être adhérent à l'association qui porte la monnaie locale en question.
Donc je dois adhérer chez vous?
Voilà.
C'est combien le taux d'adhésion?
C'est un tarif à prix conscient et libre.
Donc je donne ce que je veux.
Voilà.
Oui.
Et donc c'est ce qui finance l'association et qui permet de développer la monnaie locale. Et ensuite, on est libre de faire du change dans tous les comptoirs de change. Donc, les comptoirs de change, c'est des partenaires professionnels qui sont volontaires pour être comptoirs de change. Il y en a plus de 70 sur le territoire lyonnais.
Et ce sont les commerçants avec lesquels vous travaillez?
Voilà.
D'accord.
Et il y a aussi la version numérique de cette monnaie locale qui existe à travers une application web et mobile sur laquelle on peut créer un compte personnel comme un compte bancaire, sur lequel on peut programmer on appelle ça un crédit automatique mensuel. Tous les mois, on peut décider de changer, par exemple, 50 euros en 50 gonnettes qui arrivent tous les mois sur son compte.
Je demande à ma banque de faire un virement sur un compte en gonnettes.
Voilà.
Chaque mois, je lui dis, bah, allez, tu me mets 150 euros en gonnettes et j'aurai un nouveau compte en gonnettes.
Alors, à travers un formulaire qu'on appelle un formulaire CEPA, on autorise donc l'association La Gonnette à autoriser un virement du montant qu'on souhaite. Donc, La Gonnette reçoit le virement en question donc pour faire du change. Moi, par exemple, tous les mois, je décide de faire de virer 50 euros à La Gonnette pour que La Gonnette les transmette à la NEF, du coup.
Vous travaillez avec la NEF,
voilà.
Établissement financier.
Oui. Et donc, je reçois ces 50 gonnettes sur mon compte numérique.
Voilà. Mais alors, du coup, si vous avez aussi un compte numérique, est-ce que vous n'êtes pas un peu crypto-monnaie? Et on va en profiter d'ailleurs, et je vais vous demander de bien vouloir le faire, de nous aider à comprendre la différence entre une monnaie locale, et on reviendra ensuite à quoi ça sert d'avoir une monnaie locale, et une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie informatique.
Alors, de premier abord, les monnaies locales ne sont pas spéculatives. Et justement, les monnaies locales luttent contre la spéculation financière. Et il me semble que les crypto-monnaies sont plutôt pour la spéculation financière.
Alors, on va prendre un exemple de crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin.
Voilà.
Bitcoin, du mot pièce en anglais, et du mot bit qui veut dire informatique, enfin qui est l'élément de base de l'informatique. D'accord. Donc le Bitcoin, par exemple, pour vous, c'est une monnaie à visée spéculative?
La crypto-monnaie, oui.
Oui.
On en reparlera en tout cas, peut-être dans les détails, effectivement,
oui.
Avec
peut-être,
Jonathan.
Oui. Et donc,
Et donc les monnaies locales, avec une monnaie locale, en fait, on ne peut pas faire de spéculation.
Pourquoi ?
Elles sont complémentaires à la monnaie qu'est l'euro, mais pas à la devise qu'est l'euro sur les marchés financiers. Donc ça veut dire que, en fait, les gonnettes, comme les autres monnaies locales, ça reste une gonnette, ça reste deux gonnettes, ça ne bouge pas. Et demain, si une crise financière, comme il y a eu lieu en 2007-2008, les citoyens qui sont, toutes les parties prenantes qui sont derrière la gonnette, qui est un projet démocratique, peuvent décider de quoi faire de cette monnaie en attendant que la crise se résorbe et continuer de créer de la richesse sur le territoire sans faire de la spéculation qui n'a derrière aucun sens.
Oui, mais attendez, moi je suis commerçant, je suis rentré dans votre système, donc j'accepte d'être payé en gonnettes. Il y a une crise financière, par exemple le dollar s'effondre, l'euro s'effondre, toutes les valeurs monétaires, et peut-être que je me tournerai ensuite vers Francis Levasseur pour comprendre, s'effondrent. Crise financière, 29, bon, ou 2000, je ne sais plus combien, 2003. Bon.
2008.
Donc moi je suis commerçant, tout le monde me paye en gonnettes. Et qu'est-ce que je fais avec ces gonnettes ? Comment je fais pour m'approvisionner sur le marché international ? Question de base. Je ne sais pas, Francis Levasseur.
Non, marché international, pour l'instant, non. Mais localement, là, on revient à une économie que Charlotte nous disait, là, une économie là, locale. Le commerçant payé en gonnettes, là, il va devoir trouver un homologue, par exemple, à la station-service qui accepte les gonnettes.
Voilà.
Et donc là, on contribue à un échange qui va être local. Et la station-service, quand il ira s'approvisionner en pain, il trouvera un boulanger qui accepte en gonnette. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud qui a connu hypercrise, est-ce que c'était l'Équateur ou des choses comme ça, où la monnaie locale la monnaie officielle a disparu et ils ont créé une monnaie de substitution.
Une monnaie locale.
Et qui a permis aux gens de vivre, enfin d'essayer de vivre.
C'est-à-dire d'échanger, de continuer à faire du troc,
oui.
De l'échange, qui est la base évidemment de l'existence de la monnaie, de la signification de la monnaie.
Ça permet finalement au système de ne pas s'effondrer au niveau local, en tout cas.
Et de continuer d'échanger en fait, parce que c'est vraiment en échangeant, en faisant circuler la monnaie, que la richesse se crée.
Tout à fait. Et comment on fait pour savoir, en tant que résident lyonnais, qui accepte la gonnette ?
Alors, il y a une carte sur le site web de la gonnette. Sur l'accueil du site, il y a une carte interactive qui permet de voir tous les commerçants partenaires, de voir qui est comptoir de change et qui est partenaire près de chez soi.
Vous estimez à combien d'utilisateurs de la gonnette ? Je veux dire, de personnes qui payent en gonnette, pas les commerçants. Vous m'avez dit 50, 70 ?
Les commerçants, il y en a plus de 300.
Ah, les commerçants, il y en a plus de 300
ouais.
Ah oui, d'accord. Et donc, et des utilisateurs
Des utilisateurs particuliers, il y en a un peu plus de 1500 depuis fin 2019. Donc, c'est symbolique sur le territoire lyonnais. Et donc, on a pour objectif que l'utilisation de la monnaie locale se massifie sur le territoire pour avoir un impact vraiment, vraiment signifiant.
Vous observez une évolution d'année en année ? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été vraiment comme un pic de la gonnette, où les gens ont commencé à vraiment s'y intéresser, ou est-ce que c'est plutôt progressif ?
Au début du lancement de la monnaie, fin 2015, il y a eu un beau pic déjà. Et puis, juste après la sortie du film Demain, en mi-2016...
Oui, qui parlait de la monnaie de Bristol, les Bristol
voilà,
Pound.
Qui a eu un beau retentissement en France et ailleurs, qui a été réalisé par Cyril Dion notamment. Et donc là, ça a fait une belle publicité pour les monnaies locales.
Est-ce que si on parle de monnaie locale, d'alternative, est-ce qu'on ne partirait pas d'abord sur une petite musique pour terminer cette jolie chanson de Damien Saez qui s'appelle Des petits sous, puisqu'on parle de sous, de monnaie, et ensuite on rentre dans le vif du sujet.
Des petits petits neurones dans le cerveau qui disparaissent de jour en jour, dans les petits bois, les petits discours, des petits rois dans les basses-cours, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile aux faces, des petits qui vont grossir les ventres, des petits caissiers dans les carrefours, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits pour payer ton loyer, des petits pour la communauté. Taper, taper sur les claviers des pompes funèbres au cours d'école pour voir comme les petits sont fringués. Y'a de la griffe sur les guiboles, des petits insectes sur les fleurs, des petits bugs dans le computer, des petits pour l'eau, des petits pour l'air, des petits pour pourrir l'atmosphère. Marcher, marcher, les petits pinsons, les petits rois, les petits cons, des petits pour vendre qui on est à la criée sur les marchés. Des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile ou face, des petits qui vont grossir les gros, qui rendent les petits toujours plus petits, pour que le petit n'ait d'autre choix, pauvre de lui, que de faire des petits, oui, oui, des petits sous, des petits sous, qui veut des petits sous, des petits sous, des petits sous, on veut des petits sous.
Des petits sous. On veut des sous, tout le monde veut des sous. Mais oui, vous êtes dans Human et vous aurez des sous. Vous aurez des sous, pas des sous, pas des sous, voilà, pas des espèces, pas des choses palpitantes, pas des choses voilà, qui cognent les coins, les monnaies les unes contre les autres. Non, des sous mentaux. Bon, alors pourquoi est-ce que nous faisons aujourd'hui dans Human cette émission dédiée à l'écologique et à l'humanitaire, une émission sur les monnaies alternatives, c'est-à-dire sur les monnaies locales et les crypto-monnaies? C'est une question qui s'adresse à Francis Levasseur. Quel est le rapport, Francis Levasseur, entre ces monnaies alternatives, ces altermonnaies et le monde de l'humanitaire? Votre parcours, quelque part, répond à cette question.
Charlotte a tout à l'heure cité la NEF. Donc la NEF va recevoir les euros déposée par les futurs possesseurs de Gonet. Donc, et la nef, avec ces sommes d'argent, elle va les intégrer à ce qu'elle reçoit aussi normalement, parce que la nef n'est pas dédiée uniquement aux monnaies locales. La nef propose des produits d'épargne aux particuliers. Et la nef, brièvement, propose un circuit court de la
finance. Non, mais ça, c'est la nef, mais ça n'était pas ma question. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que les monnaies locales ont à voir avec l'humanitaire ?
Ben, je crois que c'est par rapport à l'usage qui va être fait. Qui va être fait des fonds, parce que bon, la nef recevant cet argent, la nef a comme éthique de ne pas aller du tout sur les marchés financiers, donc il faut qu'elle utilise, elle doit utiliser cet argent, et cet argent, elle va le proposer à des activités dans le domaine d'écologie, du social ou du culturel. Donc, en finale, les bénéficiaires des euros, ce seront les futurs emprunteurs, que ce soit des entreprises, des associations, des ONG. Donc,
mais alors, pour qu'on comprenne bien, Francis Levasseur, pourquoi est-ce que ce but philanthropique, ce but écologique, ce but humanitaire, qui peut être poursuivi par un établissement financier, de toute manière, il pourrait le poursuivre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une monnaie locale pour faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec des euros, des dollars ou des roubles ?
Oui, on peut tout à fait le faire. La nef a plus de 30 ans d'existence. Oui. La nef, à ses débuts, il n'y avait pas de monnaie locale et la nef existait déjà. Donc, elle faisait du financement d'humanitaire.
Et la nef n'utilise pas que des monnaies locales. Du coup, elle utilise également des euros. Mais comment fonctionne exactement, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre la nef et une banque, disons normale, même si vous l'avez bien dit, c'est pas une banque. Mais quel est pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir d'aller déposer son argent à la nef plutôt que dans une banque n'importe laquelle,
commerciale classique?
La réponse la plus simple, dans une banque classique, est-ce que vous êtes capable d'interroger votre banquier et de lui dire à quoi sert mon argent, où va mon argent? En général, la réponse va être évasive, des choses comme ça. Si vous allez à la nef, il y a fléchage de l'argent. Donc, vous déposez de l'argent sur un produit, par exemple le livret, et la nef s'engage à une transparence complète. Complète de l'utilisation qui va être faite de ces fonds. Donc, elle publie l'ensemble des prêts qu'elle réalise. Ils sont accessibles à tous. Et elle publie aussi son rapport financier, ouvert à tous. Donc, transparence complète.
Et particulièrement, vous pourriez nous donner un exemple de projet que la nef finance ?
Alors, je vais citer un exemple très proche, là, qui est à Villeurbanne, le Biristan, que vous pouvez connaître.
Ah oui, qui est un excellent bar à bière situé à Villeurbanne. Oui.
Donc, financement par la nef. Ça.
Qui accepte la Gonette, alors au passage, pardon la question.
Oui. Certainement.
Oh là là, je vais vous piquer vos sous, Charlotte, et je vais aller boire une bière. On ira boire une bière ensemble.
Allez, et petite note intéressante, certains bars qui prennent la Gonette proposent des prix plus intéressants en Gonette qu'en euros.
Ah.
Et ça, c'est du militantisme, de proposer ça. C'est d'inciter les gens à utiliser la Gonette.
Oui, mais après, bon, après, il y a l'usage de l'alcool aussi, donc ça pose question. Donc, autre exemple, l'Alter Hostel, l'auberge de jeunesse qui se trouve sur les quais de Saône, là, une auberge de jeunesse écologique, donc a bénéficié d'un financement de la nef et aussi d'un autre financement citoyen par le biais des cigales, mais c'est un autre sujet.
D'accord. Les cigales, ce n'est pas une autre monnaie, ça ?
Non, non, non. Les cigales, c'est des clubs d'investissement de particuliers.
D'accord.
Et là, pour faire simple, c'est du capital risque. Un groupe de personnes s'associe, met de l'épargne en commun et soutient un projet avec cette épargne. Mais il n'y a aucune garantie. Le projet se développe, le groupe retrouvera sa mise. Le projet capote, le groupe perd sa mise.
D'accord.
Donc là, on a un peu discuté monnaie locale, on a discuté établissement financier alternatif. Est-ce qu'on ne parlerait pas de notre troisième alternative qui est la crypto-monnaie, avec Jonathan Alibert. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous définir de façon compréhensible ce qu'est la crypto-monnaie?
Alors la crypto-monnaie, le principe basique, c'est de pouvoir transférer de la valeur partout dans le monde, donc par Internet. Une de ses autres fonctions, c'est de supprimer les intermédiaires. Par exemple, les banques, qui, lors des transferts, par exemple, monétaires à l'étranger, facturent beaucoup de frais.
À chaque transaction, effectivement, on paye...
Voilà. Oui. Alors, par rapport à la suppression des intermédiaires, par exemple, il y a le programme alimentaire mondial
de l'ONU,
voilà, ouais, qui a réussi en utilisant les crypto-monnaies comme moyen de transferts internationaux, qui a permis d'économiser 40 000 dollars de frais bancaires par mois, ce qui n'est pas...
40 000 dollars de frais par mois.
Ce qui n'est pas négligeable, sur, de mémoire, des dizaines de millions d'euros. Voilà.
Est-ce que vous savez, c'est pas une colle, hein, c'est juste pour essayer de comprendre, comment est-ce que l'ONU a fait pour développer cette histoire de PAM, de programme alimentaire mondial, est-ce qu'ils ont fait pour utiliser des crypto-monnaies?
Alors, dans mon esprit, pour moi, ça se passe, les crypto-monnaies sont achetées en local, enfin dans le pays, en monnaie nationale, ensuite elles sont transférées au destinataire qui ensuite peut les revendre sur place en monnaie nationale. Voilà.
Ça permet de garder en fait une valeur à chaque fois sans perdre en fait de valeur dans la quand on transfère l'argent.
En fait, on évite les échanges de banque à banque. Voilà.
Les frais bancaires
du coup. C'est un procédé relativement complexe.
Est-ce que ça correspond à ce que les humanitaires appellent le cash? Parce que en travaillant beaucoup avec les humanitaires, on les écoute et ils nous disent, mais aujourd'hui, quand on travaille sur des pays, parfois, il vaut mieux amener de l'argent que d'amener, par exemple, des sacs de riz. Bon, parce que les sacs de riz, il faut les transporter, que ça coûte très cher, que ça fait du carbone, etc. Est-ce que ce cash peut être amené en crypto-monnaie? Je crois bien que oui.
Oui, tout à fait.
Voilà.
D'ailleurs, c'est une définition de la crypto-monnaie qui est en fait du cash, une forme de cash numérique.
Ouais.
Voilà. Dans la mesure où il n'y a pas de banque. Donc forcément, c'est associé à un portefeuille.
On dit souvent que la crypto-monnaie, vu qu'on est toujours dans cette émission qui parle d'humanitaire et d'écologie, on a des exemples de crypto-monnaie qui a un peu sauvé des crises, notamment écologiques, des catastrophes naturelles. Est-ce que vous auriez un exemple ou deux en tête?
Alors là, je viens de parler du programme alimentaire mondial. Maintenant, je vais vous citer l'exemple piloté par Oxfam, d'un système crypto-monnaie qui a été mis en place pour...
Alors Oxfam, si je ne me trompe, c'était un projet pilote pour... Les îles, des îles, la République Vanuatu.
Oui, c'est plutôt Vanuatu. Donc, suite à une catastrophe naturelle, c'est ce que le mot que je cherchais. Donc, le but sur place, c'était de rendre les dons totalement transparents, tout en évitant les frais bancaires dont j'ai parlé tout à l'heure, tout en permettant une disponibilité permanente du système bancaire, qui, en fait, rend plus efficace la distribution et la réorganisation d'une économie locale que du cash justement classique. Par exemple, il faut une vingtaine de minutes pour enregistrer une personne dans un système de redistribution de ressources, voilà. Alors qu'avec un système tout préparé comme celui des crypto-monnaies, il faut quelques minutes seulement. Donc ce qui permet d'accélérer la mise en place de ce genre d'économie.
Est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, Jonathan Alibert, que l'ONG Oxfam a utilisé une crypto-monnaie pour résoudre son problème de cash dans un pays qui s'appelle le Vanuatu, à l'occasion d'une crise? Est-ce que c'est ça?
Oui.
Voilà.
C'est à la suite d'une catastrophe naturelle. Alors, il me semble, du coup, les crypto-monnaies, finalement, Ils récupèrent des dons. Vous disiez que c'était des dons qui étaient transparents. Ça permettait la transparence, la crypto-monnaie. On savait directement à qui étaient destinés ces dons.
Voilà, on peut tracer très facilement la crypto-monnaie. Donc on peut voir à quoi sont associés les dons. Oxfam sur place donc récupérait les dons, les utilisait en fonction de l'usage des personnes en détresse. Donc grâce à cette transparence, ils pouvaient savoir très précisément qui avait besoin de quoi, donc pour faciliter l'organisation la logistique, on va dire, humanitaire. Voilà, et le fait de redonner un moyen d'achat à une personne, plutôt que d'aller distribuer, par exemple, du riz ou de la nourriture, ça permet de redonner une forme d'indépendance et donc de dignité aux personnes. Voilà.
Voilà. Alors voilà, on voit que ces crypto-monnaies et que ces monnaies locales, voilà, sont un ensemble relativement complexe. Et vous savez, dans cette émission, on a une chronique, on a une chroniqueuse, on a une écrivaine qui s'appelle Marion Curtillet et qui nous fait une chronique. Alors, elle est allée voir ce qu'étaient les crypto-monnaies. Elle y connaît rien du tout, mais elle a découvert, et c'est le nom de sa chronique, l'euro blochon. Écoutez.
On frappe à ma porte par Marion Curtillet.
Oui, Pierre-Alain, j'ai fait grâce à vous un beau voyage poétique à travers la liste des monnaies locales répertoriées sur le site monnaielocalecitoyenne.net. Mes préférés, le reblochon dans le Val d'Arly, toute verte avec une tête de vache sur la pièce. Palme d'or, toute catégorie, il fallait le faire, ils l'ont fait. Dans la catégorie animaux, j'ai bien aimé l'abeille à Villeneuve-sur-Lot, l'élève à Chambéry, le flamand à Aigues-Mortes, on se surpasse. Et dans la catégorie végétaux, c'est la gentiane à Annecy qui affiche le plus clairement sa couleur, loin devant le trèfle en Dordogne et l'épilorin en Lorraine. Avec tout ça, je vous laisse imaginer la vie d'un commerçant engagé à Archamps, en Haute-Savoie. Avec les frontaliers qui passent par là pour rentrer chez eux à Annecy, qui vont le payer en gentiane. Les habitants d'Annemasse qui le payent en éco. Tous les habitants du bassin lémanique qui peuvent le payer en léman. Et bien sûr, les classiques qui voudront le payer en francs suisses ou en euros. Commerçant engagé aujourd'hui, c'est tout un art. Vous avez votre bocal à biscotte en vrac d'un côté. Et de l'autre, toutes les étiquettes à mettre dessus. Les provenances du bocal, du blé, du sel, de l'eau. La composition, la liste de tous les allergènes qui ne sont pas présents dans la biscotte. La valeur nutritionnelle, les codes-barres pour suivre la vie du semeur qui a semé, de l'arroseur qui a arrosé, du récolteur qui a récolté, les certifications ceci, certifications cela, et bien sûr, l'avertissement légal. Nous informons notre aimable clientèle qu'une biscotte est un produit fragile. Nous déclinons toute responsabilité si malgré toutes nos précautions, vos biscottes arrivaient cassées chez vous. Et, en plus de tout ça, l'étiquette du prix convertie en 6 monnaies. Pour arriver à tout faire tenir, et si possible que le client puisse encore voir qu'à l'intérieur du bocal, il y a des biscottes, il faut un sacré talent. En fait, si j'étais commerçant engagé à Archamps, je crois que j'essayerais de simplifier. Déjà, pour les prix, je mettrais un écriteau sur ma devanture. Ici, nous travaillons en circuit court. Si vous voulez consommer local, c'est très simple. Ouvrez votre porte. Sortez de chez vous. Venez jusqu'à chez moi. Et consommer.
Vous êtes dans Human, cette émission écologique et alternative d'une certaine manière, avec aujourd'hui les monnaies alternatives. Alors Charlotte Bazire, voyez, notre chroniqueuse est un peu perdue. Mais enfin, elle avait compris une chose quand même, c'est qu'on restait dans l'univers de la consommation. C'est votre avis, mais une consommation peut-être plus solidaire.
Une consommation fléchée.
Fléché.
Et qui en plus, pour faire le lien encore une fois avec la nef, pour les personnes qui cherche à avoir un impact positif sur la planète autrement que par la consommation, c'est-à-dire le zéro déchet, consommer bio, consommer local, etc. Ça a un impact, mais qui reste réduit. L'argent, c'est quand même ce qui gouverne un peu notre planète aujourd'hui. Du coup, ouvrir un livret d'épargne à la nef ou changer ses euros en unités de monnaie locale, ça permet quand même d'avoir un impact positif avec son argent, de réduire son impact carbone grâce à son argent.
Si j'achète demain, si je fais mes courses demain à la Croix-Rousse en Gonette, j'améliore mon bilan carbone ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que les Gonettes, du coup, restent sur le territoire.
Oui.
Et ne vont pas aller alimenter les marchés financiers spéculatifs.
Alors que si j'utilisais des euros ?
Alors que si vous utilisez des euros, les euros derrière qui vont atterrir chez votre libraire, peut-être que votre libraire va faire des courses sur Amazon, et là, les euros sont partis.
Alors qu'il ne peut pas faire des courses sur Amazon avec des Gonettes ?
Non.
Pas encore, en tout cas.
C'est à moins qu'Amazon change de dimension. Mais...
adopte la monnaie Gonette, la monnaie locale Gonette. Bon, voilà. Vous savez, c'est compliqué, je trouve, de réfléchir et d'avoir des idées simples sur la monnaie. Parce que c'est quelque chose quand même de très abstrait, la monnaie. Et en même temps, qui est présent, vous l'avez dit, ça gouverne le monde, c'est extrêmement présent. C'est la meilleure solution, la moins mauvaise solution que les hommes aient trouvée pour arriver à faire des échanges autrement que par l'intermédiaire du troc, qui est un peu compliqué quand même parce que c'est lourd. Mais c'est difficile d'appréhender ces sujets sur la monnaie. Voilà. Et donc, ce qui nous préoccupe ici, c'est de savoir en quoi ces monnaies alternatives sont évocatrices, sont intéressantes, d'abord pédagogiquement, pour comprendre le rôle des monnaies, et ensuite comme élément potentiel d'alternatives futures. Parce qu'aujourd'hui, les monnaies locales, qu'est-ce que ça représente, j'allais dire, en pourcentage par rapport à l'économie réelle ? C'est de quel ordre le pourcentage ? 0,0 quelque chose, c'est epsilon. Par contre, vous prouvez par votre existence, par l'existence d'un établissement financier spécialisé ou par l'existence de ces 25 ou 30 ou 40 monnaies locales qui existent en France et de ces, je crois, 1500 monnaies locales qui existent dans le monde, que cela peut exister et que cela pourrait se développer. Avec une interrogation, si ça se développe, est-ce qu'on ne retombe pas dans un système financier international ?
Non, parce que pour l'instant, les monnaies locales sont complémentaires à l'euro. Et en fait, l'intérêt autre que dédoubler la monnaie, c'est aussi d'apporter une diversité dans le paysage monétaire. Puisque tout à l'heure, on l'a évoqué, si une crise a lieu demain qui est aussi importante que celle de 2008, les territoires locaux vont pouvoir continuer d'échanger avec les monnaies locales qui existent. Donc la diversité monétaire, en fait, c'est comme la forêt. La forêt résiste mieux à un feu quand elle est composée de différents arbres. Et donc c'est pareil dans le paysage monétaire.
Jolie image.
Jolie image, oui. Est-ce que ça peut vouloir dire que dans une hypothèse d'effondrement systémique, partiel, on a beaucoup parlé d'effondrement dans nos émissions ces derniers temps, est-ce que ça voudrait dire que à partir du moment où cet effondrement, d'où qu'il vienne, peu importe, arrive, eh bien, il y a un retour sur la vie locale, parce que, par exemple, les moyens de communication sont coupés, parce qu'Internet est coupé, et que, partant, l'activité locale prend de l'importance, et que donc, une monnaie locale peut, à ce moment-là, être parfaitement utilisable.
Oui. Après, le local est toujours lié au global.
Oui.
Encore une fois, la complémentarité avec l'euro fait le lien avec le système mondial qui existe, le système économique, le système financier, pour avoir un impact positif sur l'ensemble de la communauté humaine.
Ça n'a pas pour vocation à remplacer l'euro.
Non.
tout à fait. Et c'est marrant, parce que c'est exactement ce que me disait Jonathan Alibert tout à l'heure quand on discutait avant l'émission, que les crypto-monnaies n'avaient, elles n'ont plus pas vocation à remplacer totalement le système financier dans lequel on évolue. Et il y avait un exemple justement de ces crises ou de ces effondrements qui peut arriver dans les pays, notamment l'Argentine, qui est un pays en ce moment en très grosse crise, dont la monnaie s'effondre totalement. Et il y a une monnaie qui de développeurs, c'est, je vais laisser Jonathan Alibert nous en parler plus en profondeur.
Donc tout à l'heure, on disait que il y a beaucoup de crypto-monnaies qui étaient spéculatives. Et c'est un problème, parce qu'on ne peut pas appeler ça une monnaie, puisqu'elles n'ont pas une valeur stable. Donc ça, il faut trouver un problème pour faire en sorte qu'elles aient une valeur stable. Et une des solutions a été le DAI, donc un DAI égale 1 dollar. Alors, pourquoi est-ce que ça a été utile dans le cas de l'Argentine et d'autres pays qui ont le même genre de problème? La monnaie, justement, en Argentine, le pesos, est volatile. De ce fait, comme au final on peut faire l'analogie avec la crypto-monnaie, elle n'est plus utilisable. On appelle ça de...
Elle est volatile, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse inflation et que la baguette de pain qui coûte aujourd'hui un peso, je dis n'importe quoi, mais elle va coûter demain ou après-demain 2 pesos.
Voilà, tout à fait. Et donc là-bas, les Argentins utilisent sur le marché noir, et donc de façon presque systématique, des dollars. Et en fait, on assiste à quelque chose, donc pour la partie légale, qui s'appelle la pesification du dollar, c'est-à-dire que quand on a des dollars dans son compte en banque, on a l'obligation de les changer en pesos.
Donc, c'est le gouvernement qui oblige ses citoyens ?
Oui.
Il y a interdiction de garder des dollars sur son compte en
voilà.
banque.
Voilà, et ceux qui le font le sont affichés publiquement avec leur numéro de sécurité sociale, leur identité complète, voilà. Et donc l'intérêt de passer par ce dollar, le DAI, est qu'il n'y a pas besoin de compte en banque. Et donc ils ne sont pas saisissables facilement. Et ils permettent de conserver la valeur, par exemple, d'une paie, avant de les transformer en pesos pour acheter sur place.
Moi, j'ai une question qui me vient directement lorsqu'on parle de justement de.
Mais moi, j'ai pas compris là.
Alors.
Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce DAI? C'est quoi? C'est du dollar ou c'est pas du dollar?
C'est équivalent.
Parce qu'il y a beaucoup de pays en voie de développement, comme on disait, qui ont une économie, une double économie. Il y a à la fois la monnaie locale, à Cuba, en Algérie, partout. On a tous connu ça dès qu'on a voyagé, et où le dollar ou l'euro continue à exister, mais de manière évidemment plus ou moins officieuse. Donc ça, je comprends. Mais le DAI, quel rapport a-t-il en Argentine avec le dollar? Ça, j'ai pas compris.
Alors, il a la valeur du dollar.
Oui.
Donc, il y a un développeur argentin qui a expliqué comment il se prémunissait justement des actions sur place qui obligeaient à utiliser du pesos argentin, ce qui est dangereux pour sa sécurité alimentaire, par exemple.
Parce qu'il va se dévaluer?
Parce qu'il pourrait se dévaluer, voilà.
D'accord.
Le dollar permet de fixer la valeur.
Mais le DAI, c'est de la crypto-monnaie. C'est de...
Oui,
le
voilà.
DAI,
alors,
c'est une crypto-monnaie qui est associée au dollar.
De la même manière que la monnaie locale.
Voilà, pour une unité de monnaie locale, on a 1 euro. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais on a 1 dollar. Et derrière, on a des crypto-monnaies avec un système un peu complexe. Mais c'est totalement similaire à...
C'est le même principe.
Voilà, c'est exactement
et les gens s'en servent.
Et les gens s'en servent...
Localement.
Localement. Ils sont assez peu pour l'instant et je pense que ça le restera assez longtemps parce que ce sont des technologies assez difficiles à utiliser. Mais elles ont des qualités similaires à des monnaies locales. Voilà.
Moi, quand je pense, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, c'est est-ce que ce n'est pas aussi faciliter l'évasion fiscale ?
Alors, souvent, on parle de blanchiment d'argent, on parle de...
D'évasion fiscale.
Alors, c'est, je pense, un manque de connaissance de la part les personnes qui ne connaissent pas, justement. ces crypto-monnaies sont en fait extrêmement transparentes. Elles ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes et absolument traçables, bien plus que dans le système bancaire. Alors, il existe des crypto-monnaies totalement anonymes.
Donc, les crypto-monnaies anonymes pourraient permettre effectivement cette évasion voilà. fiscale. Mais en fait, le fait que ce soit traçable, c'est plus facile ou c'est plus difficile pour quelqu'un de retracer vraiment sur Internet ?
Pour les gouvernements, c'est plus facile de tracer de l'argent sur Internet qu'en allant voir les comptes de différentes...
dans un système bancaire.
Voilà.
Bon. Vous voyez que, voilà, on part de bonnes intentions, puis on arrive à des choses compliquées. Alors, on va se faire une petite pause musicale, vous savez. Et puis, bah, voilà, on nous a soufflé, ben, pourquoi pas, Money, de Pink Floyd. Écoutez.
Get a good job with the pain, you're okay.
Voilà, nous sommes dans la monnaie, comme diraient nos amis les Pink Floyd. Nous sommes dans les monnaies alternatives, nous sommes dans Human, cette radio sur l'écologie et l'humanitaire. Alors, moi, une question vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? C'est quelque chose que je peux échanger. Et je me souviens, bon, j'ai des souvenirs comme nous tous, de cours d'école. J'avais des copains, c'était pas trop des copains, c'était comme des ennemis, qui avaient des gros sacs de billes. Et moi, j'avais que quelques billes. Et donc, le jeu consistait à essayer de récupérer le plus de billes. Est-ce que ces billes, c'est de la monnaie? Première question. Deuxième question. Je vais me promener des fois sur Facebook. Et sur Facebook, il y a plein de gens qui me disent « Je veux que tu likes ma page. Je veux que tu m'aimes. » Et alors, je vais lui faire des likes. Est-ce que ces likes, quelque part, ça ne devient pas une sorte de monnaie? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être vous, Charlotte. Non?
Si. j'ai une question qui me vient, en fait, quand vous évoquez ces questions-là. C'est la richesse. C'est quoi la richesse?
Oui.
Quand on parle des j'aime sur Facebook ou quand on parle... juste avant, vous avez évoqué...
les billes.
Les billes. Donc, pour moi et pour les monnaies locales en général, la monnaie n'est pas une fin en soi.
Oui.
On ne cherche pas à s'enrichir pour s'enrichir, pour s'enrichir sans fin et sans but et sans sens. La monnaie est un outil. Tandis que la richesse aussi peut être questionnée dans ce cadre-là et dans un contexte où on fait face à une crise climatique et sociale forte, la monnaie doit être un outil d'échange qui permet de créer une richesse qui fait du bien à la communauté humaine et à la planète et qui permet de garder...
Et qui fait sens.
Qui fait sens.
Parce que je crois que 95% des transactions financières sont des transactions précisément qui ne servent pas à échanger des biens ou des services, mais qui sont simplement des transactions qui servent à faire de la... Comment dit-on? Quel est le terme qui convient?
De la spéculation.
De la spéculation, n'est-ce pas? 95%, donc c'est énorme.
Environ 95%, voire même 98%, et 2% des transactions ont lieu dans l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est tout ce qui est quand on va chercher notre pain chez le boulanger, quand on va chez le coiffeur, etc.
Ou qu'on achète 2000 camions à la Chine, etc. Ça, c'est de l'économie réelle aussi.
Oui.
Hein?
Oui.
Est-ce que vous avez peut-être, nos autres invités, Francis Levasseur, par exemple, quelque chose à ajouter pour conclure?
Comment conclure sur un si beau sujet?
Entre les monnaies locales et les crypto-monnaies, donc j'ai indiqué tout à l'heure la nef, une proximité avec les monnaies locales, avec les crypto-monnaies pour l'instant rien du tout, sachant que la nef est un établissement sous contrôle de la Banque
de France.
Banque de France, donc il y a un certain nombre de cadres à respecter. Et actuellement, la nef se pose la question d'évoluer, de devenir une vraie banque. Donc, mais en devenant une vraie banque, elle restera une petite banque par rapport aux grandes marques qui sont sur le marché, là. Donc, la question peut-être, mais que je pose, et je ne suis pas du tout dans les secrets de la recherche au sein de la nef, peut-être qu'il y aurait un débouché vers des crypto-monnaies éthiques dans lesquelles la nef pourrait se retrouver et travailler avec les partenaires européens de la finance unique.
Voilà, bien, peut-être que nous resterons sur cette évocation d'un espoir possible d'une évolution vers des monnaies éthiques. Voilà, merci à vous trois de nous avoir aidés à nous y retrouver dans ce grand maquis des monnaies alternatives, réalisé aujourd'hui par Madeleine Pochon, avec Elliot Michelas à la communication et à la photographie, Salomé Gustavo. Salut, à la semaine prochaine.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.